Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
On sait que très bientôt, le gouvernement de François Legault va apporter une réponse à la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour renforcer la loi 101? Mais mon collègue et ami Joseph Facal nous donne un brin de réponse ce matin dans le journal en disant tout simplement, ben écoutez, la loi 101, vous auriez beau lui donner beaucoup plus de muscles, beaucoup plus de mordant, ça ne suffira pas. Je vous laisse deviner qu'est-ce que ça prendrait pour sauver le français au Québec. Joseph, bonjour.
Bonjour Sophie.
Je vais faire ce qu'on appelle dans le domaine des séries télé un divulgateur. Je vais faire un spoiler. La réponse, selon toi, c'est l'indépendance. Tant que le Québec fera partie du Canada, on ne pourra pas sauver le français au Québec?
En fait, ici, je voudrais peut-être nuancer. Quand on propose l'indépendance comme solution ultime, on est souvent mal compris.
OK, vas-y alors.
Voilà, beaucoup de gens disent, même si on était indépendant, on serait quand même une petite nation fragile qui devrait faire attention. Vrai. Quand on propose l'indépendance, des gens disent, mais oui, mais ça ne veut pas dire ça, qu'on ne peut pas faire des choses en attendant. Vrai également. Il faut bien se comprendre ici. La loi 101 prend évidemment l'eau de toutes parts. Et c'est pas seulement une question de jugements fédéraux ayant fait des trous dedans. C'est plus complexe que ça. On a aussi tous un examen de conscience à faire. Mais fondamentalement, une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a admis que chacun d'entre nous pourrait, devrait faire mieux, que nos gouvernements, y compris ceux dont j'ai fait partie, ont été négligents, une fois qu'on a dit ça, on revient à l'essentiel, qui est que tant aussi longtemps que les Québécois au Canada seront une minorité, eh bien, un immigrant qui vient ici pourra faire sa vie, quel intérêt a-t-il à se joindre à une minorité? Et je ne sais pas si tu as vu, Sophie, dans le Journal de Québec de ce matin, un article très intéressant qui n'a pas été reproduit dans le Journal de Montréal, dans lequel on nous dit que la moitié des Syriens arrivés au Québec en 2017, la moitié sont déjà repartis. Et quand on leur demande pourquoi, ils nous parlent évidemment de l'irrésistible attrait
de l'anglais
dans le reste du Canada. Et bien entendu, qui dit anglais dit argent. C'est-à-dire que pour eux, et c'est normal, l'anglais est la langue de la réussite économique, de l'ascenseur social pour leurs enfants, et sans nécessairement qu'il y ait chez eux la moindre hostilité au fait français. Ils comprennent juste pas pourquoi ce serait à eux à livrer notre bataille. Et ça, ça nous ramène bien au-delà du « ben oui, on pourrait mieux parler aux Français, les cucus puis les kikis puis les genres ». Fondamentalement, il y a une dimension...
Et tu les kikis et les gens! Tu me fais rire, ben oui. Joseph!
Oui. C'est tu le gars qui va là, c'est kiki, bon...
Tu veux-tu? Ça te tente-tu?
Mais fondamentalement, au bout du compte, la langue est une affaire politique. Et, traumatisée par deux échecs, c'est l'éléphant que nous refusons de voir dans le salon juste à côté.
Oui. Alors, je vais te donner... on va partir du macro pour aller au micro. Je vais te raconter une anecdote toute simple. J'en parle souvent à ce micro de à quel point je suis écœurée, tannée, fatiguée à chaque fois quasiment que je commande de la nourriture pour emporter à la livraison. Le livreur, 99% du temps, est incapable de me parler en français. Et à chaque fois, je leur pose la question de quel pays vous venez, si j'allais au Bangladesh, au Sri Lanka, en Inde, au Pakistan, donc dans le pays d'origine, est-ce que vous pensez que je pourrais me trouver une job si je parlais pas la langue du pays. Bon, bref. Pas plus tard que la semaine dernière, la même chose arrive. Fait livrer de la pizza, le livreur parle pas. Je lui pose la question et lui me répond. Je lui dis, est-ce que vous savez qu'au Québec, la langue, c'est le français? Et il me répond, il dit, I didn't come to Québec, I came to Canada.
Ben oui.
C'est ça? To Québec. J'ai pas demandé à venir dans une province francophone. À tous les coups, peut-être même qu'il était même pas au courant que les agents d'immigration ne lui ont même pas parlé de cette réalité-là. Lui, il vient dans un tout qui s'appelle le Canada, puis il parle peut-être déjà trois langues différentes dans son pays d'origine. Puis là, l'anglais, pour lui, c'est la langue... Déjà, c'est un effort pour lui de parler anglais. Demande-lui pas de parler français.
Ben oui, et en plus, évidemment, il prête serment de citoyenneté et reçoit le passeport d'un pays dont la doctrine officielle est le bilinguisme. C'est-à-dire que tu parles la langue de ton choix. Alors, il ne faut pas les blâmer, eux. Ils arrivent ici et ils ont le sentiment d'être assis entre deux chaises, d'être, si tu veux, les victimes ou les dommages collatéraux d'une épreuve de force entre, au fond, deux nations. Ou, comme disait jadis Pearson, une nation encastrée dans une autre nation. Évidemment, tu sais, Sophie, suppose que toi et moi, on immigre en Inde. L'Inde est un énorme kaléidoscope de langues différentes, de régions différentes, de
religions
différentes. Ouais. Et je serais même pas capable, moi, de te nommer toutes les provinces en Inde. Alors évidemment, eux viennent ici... Et on leur demande d'être sensibles et solidaires au combat des héritiers de Samuel de Champlain.
Ben c'est dérisoire.
C'est notre problème. C'est notre problème et il y a une dimension politique fondamentale. Et évidemment, François Legault, que veux-tu, pas seulement sur ce dossier-là, mais sur d'autres, ne cesse de se heurter à la réalité canadienne. Coudonc, un jour... Il va peut-être se rappeler de ce qu'ont été ses croyances pendant 40 ans.
Ben voilà, et que du temps où il était, en effet, qui penchait de ce bord-là. Parce que bon, on va sortir un tout petit peu, mais puisque tu m'ouvres la porte, je vais m'y engouffrer. C'est que tu dis sur ce dossier-là et sur bien d'autres dossiers, la fermeture des frontières. Si on était responsable de nos propres frontières, on n'aurait pas demandé la permission à Ottawa de fermer l'aéroport. La question des vaccins, si on avait pu gérer nous-mêmes, ben peut-être que ça aurait été géré différemment. En même temps, peut-être qu'aussi on aurait eu moins de vaccins. Mais bon, parce qu'on aurait été une plus petite nation, notre pouvoir de négation a peut-être été moindre. Mais je regarde, par exemple, la question de la quarantaine, à quel point c'est ridicule. Écoute, des appels robotisés. Si on avait pu gérer ça nous-mêmes, peut-être qu'on aurait fait pire, peut-être qu'on aurait fait mieux, mais on l'aurait fait à notre manière. Et ce qu'il y a de profondément insultant en ce moment, c'est qu'à chaque fois, on est dépendant de papa Ottawa. Et je pense que tu parles de François Legault, mais penchons-nous aussi sur la population québécoise. Peut-être que, à force de se faire dire « on a les pieds et les mains liés à cause d'Ottawa », peut-être que les Québécois vont se réveiller puis vont se dire « ben, coudonc, comment ça se fait que notre destin est entre les mains d'un quelqu'un d'autre que nous-mêmes? »
Ah oui. Moi, tu vois, je devrais peut-être pas dire ça en onde, mais je vais le dire quand même. Je te cacherai pas, Sophie, que après 40 ans, à discuter de cette question. Je n'en reviens pas de ce sentiment, de cette lassitude, de l'éternel recommencement. À chaque fois que j'écris une chronique sur la langue, ou l'une des miennes, ou l'une des tiennes, ou l'une des Mathieu, ou l'une de Richard, ou peu importe, lis les commentaires en dessous. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « C'est quoi votre problème avec apprendre l'anglais? » Mais qui prétend qu'il ne faut pas apprendre l'anglais au Québec? Nous sommes les champions du monde pour s'inventer des excuses qui n'en sont pas. Autre,
exactement.
Par exemple, tu vois, le fait qu'on pourrait mieux parler le français. Oui, bien
ben
sûr.
Oui.
Mais c'est une question de rapport de force démographique. Et si chacun d'entre nous parlait comme Emmanuel Macron, ça changerait strictement rien à la fragilité du français en Amérique du Nord.
ou Mathieu Bock-Côté.
ou Mathieu Bock-Côté.
oui, oui. Ben non, ben t'as tout à fait raison. Et la question fondamentale n'est pas ça. Mais je note quelque chose que tu as dit au tout début de notre entretien. T'as dit des gouvernements, dont ceux dont j'ai fait partie, dont celui dont j'ai fait partie, ont été négligents. Et ça, c'est important de revenir là-dessus, Joseph, parce que, par exemple, au niveau de la... En ce qui a trait à la francisation, en ce qui a trait à la sélection des immigrants, le cégep, je veux dire, c'est on a fermé les yeux, on a été complaisant, on a été mou, on a été gentil, on a été accommodant, et on a oublié de se faire pousser une colonne vertébrale.
Exact. En fait... C'est un peu douloureux de dire ça, mais d'une certaine façon, c'est un petit peu comme si la loi 101 avait été une sorte de cadeau empoisonné. C'est-à-dire que cette gigantesque victoire collective, il faut se rappeler d'ailleurs, enfin se rappeler, qui s'en rappelle encore, il faut se rappeler les énormes réticences que René Lévesque avait. Et Camille Lorrain a livré une bataille herculéenne à l'intérieur même du gouvernement pour convaincre ses collègues que c'est par là qu'il fallait aller. Et cette loi 101 a permis de faire des gains, a permis de colmater des brèches, mais d'une certaine façon, elle nous a donné un sentiment de fausse sécurité.
Comme avec les masques au début de la pandémie.
Évidemment, la démographie, évidemment, elle se fout complètement des lois jusqu'à un certain point. Et donc, évidemment, par indifférence, par effritement de certains pans de la loi les uns après les autres, bien évidemment, on connaît des reculs. Des reculs qui sont tels que quand c'est rendu que même Justin Trudeau
admet qu'il
y a un problème au Québec, bien, ça veut tout dire.
Ben, non seulement ça, mais que quand Emmanuela Lambropoulos, la députée libérale de Saint-Laurent, remet en doute le déclin, elle se fait taper sur les doigts par Mélanie Joly, par Justin Trudeau et par l'ensemble des apparatchiks libéraux. Donc ça, je t'avoue honnêtement que ce qui s'est passé l'année dernière en 2020, ou que ce soit donc ça dont je viens de parler, ou que ce soit Erin O'Toole qui, en chambre, livre un vibrant plaidoyer pour la défense du français, honnêtement, je me suis un peu pincé quand même. Je me suis dit, il y a quelque chose dans l'eau, là, cette année.
Tout à fait. Et c'est un débat qui est rempli d'illusions d'optique. Je te donne un exemple. Souvent, on rencontre des gens plus âgés que moi, qui, évidemment, se rappellent du Québec pré-loi 101, et qui nous disent, vous n'avez pas connu ça, vous, l'époque où, sur la rue Sainte-Catherine, tout l'affichage était en anglais.
Et
de ce point de vue-là, ils n'ont pas tort. Mais le problème, c'est qu'on se sert des succès sur 50 ans pour nier les reculs depuis 20 ans.
Oui, c'est très bien dit. C'est très bien dit et c'est très, très bien résumé, Joseph. Je vais profiter de tes talents de pédagogue, puisque tu es aussi professeur, tu n'es pas juste mon collègue journaliste. Rappelle-nous donc, pour ceux qui justement ne s'en souviennent pas, tu as parlé tout à l'heure des énormes réticences de René Lévesque face à la loi 101. Rappelle-nous donc, c'était quoi? Ça tenait à quoi ces réticences-là?
Ben, ces réticences sont que, bien entendu, on ne se contre pas d'histoire. Il y a là-dedans, dans la loi 101, une restriction à certaines libertés. Par exemple, avec la loi 101, tu ne peux pas afficher dans la langue que tu veux. Ou avec la loi 101, si tu es un immigrant, tu n'as pas le choix de la langue dans laquelle seront scolarisés tes enfants. Et évidemment, même Camille Lorrain était conscient du caractère délicat, sérieux, lourd, d'une restriction à quelque chose comme le choix de l'école que tes enfants fréquenteront. Mais en même temps, sinon... Ben, c'est la folklorisation d'abord et la mort ensuite du français. Et d'une certaine façon, Sophie, ce que nous sommes en train de vivre, je me demande si ce n'est pas l'acadianisation du Québec. C'est-à-dire accepter la condition minoritaire, avec tout ce qu'elle comporte de défaitisme psychologique, de petits chialages sans lendemain.
Ben écoute, c'est là-dessus, sur cette phrase bien tournée, comme toutes tes phrases, Joseph, c'est comme ça que ça se termine. Et c'est d'autant plus touchant, je le rappelle, que ta langue maternelle n'est pas le français, mais bien l'espagnol. C'est important de le rappeler parce qu'encore une fois, il y a plein de gens qui pensent que parce que tu t'appelles Joseph, que tu es un francophone pur laine. Eh ben non, tu es un merveilleux exemple de l'immigration exceptionnellement réussie au Québec. Et c'est un plaisir à chaque fois renouvelé. Merci beaucoup, Joseph. Et
merci,
puis j'encourage tout le monde à aller lire donc ta chronique dans le journal de ce matin. Merci beaucoup, Joseph.
Au revoir. Merci.